le 16. Culture.
Vous êtes de retour au 16 et puis maintenant, ben, on a la chance de recevoir en studio le co-metteur en scène Gilles Abel de la nouvelle pièce du Petit Théâtre de Sherbrooke. Bonjour, vous allez bien?
Très bien, merci, vous?
Oui, je vais très bien, merci. On vous reçoit pour Prince Panthère, donc votre nouvelle pièce que vous avez, co-mis en scène avec Erika Tremblay-Roy. C'est une pièce librement adaptée du roman graphique Panthère de l'artiste flamand Brecht Evans. Qu'est-ce que nous raconte cette pièce-là?
Alors, cette pièce, elle nous raconte une histoire relativement simple, mais assez étrange. C'est qu'on rencontre, on se retrouve dans la chambre d'une petite fille qu'on ne va jamais voir dans le spectacle, mais dont on va découvrir qu'un prince panthère, un jour, débarque dans sa chambre, accompagné de son toutou qui s'appelle Bonzo. Et tout au long du spectacle, on va découvrir finalement toute une série de couches de ce qui habite cette petite fille, qui doit avoir une douzaine d'années, on va dire, et qui, manifestement, est envahie d'émotions assez contradictoires. Mais comme on ne la voit jamais, c'est vraiment le prince panthère et son toutou qui va prendre vie à un moment dans le spectacle, qui vont être un peu l'incarnation d'une série de pulsions, d'émotions assez contradictoires, ambiguës, dont on comprend que la jeune fille a l'air d'avoir une vie quand même relativement compliquée, à se poser beaucoup de questions, et dont on va découvrir à travers ces deux personnages un petit peu étranges, à quel point c'est pas évident de savoir un peu composer et gérer plein de choses qui nous habitent, qui débordent et qui ne sont pas faciles à gérer pour un enfant, mais pour qui que ce soit, je dirais, en général.
C'est une pièce qui est axée, autant pour les adolescents, les jeunes adultes, ou en tout cas 10 ans et plus, quelque chose.
10 ans et plus, 10-14, hein, ouais. C'est-à-dire que c'est un public, finalement, dans la création jeunesse, on a beaucoup de spectacles pour les tout-petits, pour les premières, deuxième, troisième, quatrième années. Mais c'est vrai que quand on arrive à la jonction du primaire et du secondaire, on a parfois un petit peu plus de mal à se dire qu'est-ce qui convient ou qu'est-ce qui conviendrait, on va dire, à un public comme celui-là. Et ici, ça nous intéressait vraiment de nous dire qu'est-ce qu'on peut essayer d'adresser, qui va venir un peu faire écho à des enfants de cet âge-là, en sachant que la bande dessinée, le roman graphique dont on est parti, est un roman graphique davantage destiné aux adultes, mais que l'auteur, quand on l'a sollicité pour ses droits, nous a dit, si vous faites une copie conforme de ma BD, ça ne m'intéresse pas. Mais si par contre vous vous en inspirez, que vous en éloignez un petit peu pour vous l'approprier, là je serais peut-être d'accord de vous donner mes droits, ce qui a été le cas. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est librement inspiré et pas du tout une réplique, on va dire, de la BD. Mmh.
Quelle a été justement cette approche qui diverge du roman graphique? Quelle a été votre approche à Erika Tremblay-Roy et vous?
Alors, l'approche, elle a été d'abord de se dire qu'est-ce qui nous intéresse dans le roman et qu'est-ce qui ne nous intéresse pas. Et dans le roman, il y avait quelque chose dans le sous-texte qui était vraiment de l'ordre d'une relation probablement incestueuse entre le père et la fille qui cohabitent avec la mère qui est partie. Ça ne nous intéressait pas, mais par contre, le personnage de la panthère qui est assez fidèle dans le spectacle avec ce qu'il est dans le livre, dans son côté séducteur, dans son côté trouble, dans son côté un petit peu inquiétant, mais en même temps très drôle et qui vient un petit peu nous caresser dans le sens du poil par rapport au doute ou au désir un petit peu inassouvi qu'on a. Ça nous intéressait un peu. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit peu en face de nous des gens qui sont séducteurs, charismatiques, mais dont on ne sait pas toujours très bien quelles sont leurs intentions derrière? Et puis comment faire quand on est finalement habité, comme je le disais à l'instant, par toute une série d'émotions un peu contradictoires et qu'on n'a pas toujours un petit peu les points d'appui ou les ressources, on va dire, pour se dire est-ce que je dois les accepter, est-ce que je dois les rejeter, comment je peux faire pour les canaliser? Et tout ça, on l'a vraiment gardé. Il y a vraiment différentes trames qu'on a vraiment conservées. La dimension aussi visuelle, parce que c'est une BD dans le style graphique de l'auteur qui est extrêmement foisonnante, et ça nous parlait beaucoup. Et donc, on a essayé un petit peu de composer finalement une nouvelle partition en conservant des choses fidèlement et en accentuant, on va dire, ou en amplifiant certaines autres choses, notamment dans la dimension questionnement et dans la dimension monde intérieur un petit peu opaque ou chaotique. Qu'est-ce qu'on fait avec ces mondes-là pour essayer de ne pas complètement être engloutis, on va dire, dans ces pulsions qui parfois nous dépassent.
Mm-hmm. Puis votre spectacle, qui est qualifié d'étrange et envoûtant, qui prend la forme d'un cabaret excusez-moi le mot.
Il n'y a pas de souci.
Ouais, j'ai la misère à dire. Onirico philosophique. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme-là?
Alors, ce qu'on s'est dit finalement, c'est que même si d'emblée on a l'impression d'être dans la chambre de cet enfant tout au long du spectacle, on a quand même voulu finalement peut-être multiplier les couches ou les univers dans lesquels on allait faire rentrer le public. Et on s'est dit finalement, dans ce côté charismatique, ben, on a très vite été séduit par le registre des comédiens de stand-up, par exemple. Et donc, on a essayé de composer à l'intérieur de cette chambre des espaces ou des lumières qui allaient peut-être envoyer davantage à ça. Évidemment, comme la panthère vient d'un pays imaginaire qui s'appelle Pantésia, ben, on a essayé de se dire comment faire rentrer... un peu à l'instar du livre pour enfants connu Max et les Maxi-Monstres, une jungle qui finalement contamine un peu la chambre. Ben, on s'est dit finalement, il y a souvent plusieurs niveaux de lecture dans un spectacle jeune public. Et nous, on s'est dit, ben, quels sont les niveaux de lecture ou les imaginaires qu'on a envie d'entrecroiser dans ce spectacle ? Et évidemment, le côté onirico, ben, c'est de se dire que cette fille, on ne sait pas très bien finalement comment on ne la voit jamais. Est-ce que la panthère, c'est elle ? Est-ce que la panthère, c'est pas elle ? Est-ce que la panthère est juste le reflet, l'incarnation de quelque chose, mais tout en gardant toujours cette espèce d'incertitude quand on est spectateur de ça ? Et philosophique, tout simplement parce que tout au long du spectacle, elle pose toute une série de questions sans jamais finalement y répondre, mais en montrant que ces questions-là, elles nous habitent sans doute tous et toutes, et que peut-être elles peuvent avoir quelque chose d'un petit peu enivrant, d'un petit peu attirant, d'un petit peu difficile et complexe à démêler. Et que par ailleurs, la raison aussi de mettre l'étiquette, on va dire, onirico-philosophique dedans, c'est que moi, à la base, je ne suis pas artiste de jeune public, je suis philosophe pour enfants. Et que quand Erika m'a demandé de venir le créer à ses côtés, ben, elle m'a dit « Je sais ce que tu fais en matière de philo pour enfants autour de spectacles pour enfants depuis longtemps, mais ici j'ai envie que la philo ne soit pas autour du spectacle mais à l'intérieur. Mm-hmm. » Et donc tout ce travail qu'on a fait avant de convoquer les interprètes et les conceptrices, c'est de se dire ben, « Qu'est-ce qu'on a envie ou comment on aurait envie de faire exister la philosophie comme à travers un personnage ?» Et ce personnage du Prince Panthère finalement est une espèce d'étranges créatures qui vient nous bombarder finalement quand même pas mal de questions tout au long du spectacle, mais tout en nous disant c'est pas grave si on n'a pas de réponse, mais en même temps ça ne nous empêche pas de nous aventurer à l'intérieur de ces questions sans être forcément dépassé, perdu ou seul face à ces questions.
Justement, en lisant la description, j'avais l'impression que la pièce se trouvait pas mal à mi-chemin, en tout cas avait ses influences un peu dans le théâtre immersif, parce que ces questions-là, on les pose en général, mais vous les posez aussi directement au public.
Absolument. Et c'est vrai que ça a été un enjeu qu'on a souhaité vraiment soigner le mieux possible pour qu'il soit le plus intéressant, le plus ludique, le plus lisible aussi pour les spectateurs, mais que l'interactivité qu'on souhaitait générer finalement avec le public, ben, elle n'est pas facile à encadrer, à canaliser. Et donc, on a beaucoup cherché dans l'écriture du texte qu'Erika a fait, et puis dans les tests qu'on a eu l'occasion de faire, dans les recherches, dans les impros avec les interprètes, ben, on s'est dit finalement comment trouver une façon d'adresser réellement des questions au public, mais en n'ayant pas l'occasion tout le temps de prendre le temps de les entendre dans leurs réponses, mais sans non plus tomber trop vite dans l'idée qu'on fait semblant de reposer des questions pour ne jamais les écouter, ce qui aurait été vraiment une pente glissante qu'on souhaitait éviter. Donc on a, tant bien que mal, j'ai envie de dire, essayé de trouver le point d'équilibre dans cet enjeu-là. Et on a eu dans les groupes tests et puis dans les premières classes qui sont venues cette semaine découvrir le spectacle, ben, l'occasion de voir que ce point d'équilibre, on était proche quand même, pas mal proche de l'avoir trouvé finalement.
Mm-hmm. Justement, c'est ça, vous montez des pièces, des spectacles jeunes publics depuis plus de 20 ans ici au Québec, mais aussi en Belgique. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Puis qu'est-ce que vous aimez le plus là-dedans?
Alors, ce qui m'a amené à faire ça, c'est une succession, je dirais, de hasards, des rencontres, à la fois en Belgique où j'habite, mais également au Québec où j'ai étudié et puis où je viens régulièrement pour ce genre de projet. Et ces différentes rencontres, finalement, ont été des gens qui sont venus en disant « Tiens, philo pour enfants, est-ce que ça pourrait être lié au spectacle jeune public ?» Et puis j'ai dit « Ben, essayons, et puis on verra. » Et à force d'essayer, on a vu que ça suscitait un intérêt chez les enfants, ça suscitait un intérêt chez les artistes, chez les médiateurs. Et donc ça m'a fait réaliser que j'avais envie d'être là, parce que j'y trouvais du plaisir, j'y trouvais de l'intérêt. Ça me donnait beaucoup d'occasions régulièrement d'aller à la rencontre des enfants en lien avec des spectacles qui étaient créés par des compagnies et des artistes. Et par ailleurs, je pense aussi que ce qui est intéressant avec les enfants, c'est qu'ils ont un côté un petit peu intransigeant, c'est-à-dire que si au bout de 5 minutes... ils s'ennuient, ben, ils vont nous le faire comprendre. S'il y a des choses qui ne sont pas assez claires, ils ne se priveront pas de nous le dire. Et que par ailleurs, il y a quelque chose sans doute d'une intuition, d'une conviction, c'est que on a peut-être tendance parfois aujourd'hui à considérer que des enfants sont des petits spectateurs, pas tout à fait formés, pas tout à fait aboutis, des sous-spectateurs quelque part, que c'est quand on devient ado ou adulte qu'on deviendrait un vrai spectateur. et que pas mal d'artistes ou de gens qui sont impliqués dans le jeune public dans beaucoup d'endroits, hein, pas qu'au Québec ou en Belgique, ben, sont parfois animés par une volonté de dire que c'est pas tout à fait le cas et que le fait de faire confiance à l'intelligence des enfants, à leur capacité à découvrir des formes, des langages, des propos peut-être complexes, un petit peu opaques, ben, il faut pas s'en priver parce que c'est pas leur rendre service que de toujours les infantiliser finalement. Et qu'elle essayait sans cesse de chercher des propositions artistiques qui les mettent à l'épreuve, qui les bousculent un petit peu peut-être, mais sans complètement les anéantir, on va dire. Mmh. Ben, c'est quelque chose qui guide pas mal d'artistes jeunes publics, qui me guide moi en tout cas, qui guide Erika également, et qui fait que je pense un jour, quand elle m'a proposé de créer avec moi, ben, quand je suis arrivé avec cette bande dessinée, elle m'a dit « Ah oui, il y a quelque chose qui est intéressant dans l'ambiguïté, dans l'obscur, et dans le fait que les enfants peut-être... gagne à se voir proposer des histoires dans lesquelles on n'a pas une histoire linéaire où tout est noir au début et tout est clair à la fin, mm-hmm. mais où on peut naviguer à travers quelque chose de peut-être un peu plus flou sans forcément qu'on en soit déçu ou inquiet.
Je serais curieux de vous entendre un peu, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, là, vous décrivez comme un philosophe pour enfants. Et de quelle façon est-ce que vous approchez différemment la philosophie quand ça s'adresse justement aux plus petits?
Alors, finalement, c'est assez simple. Une fois qu'on se détache de l'idée traditionnelle qu'on a de la philo, c'est-à-dire le savoir philosophique, les philosophes, et qu'on met ça, je dirais, un petit peu de côté, et qu'on se dit finalement, peut-être qu'on pourrait aborder ça par un autre versant, qui est de se dire, ben, quelles sont les questions philosophiques, indépendamment de qui les a posées, quelles sont les compétences ou les habiletés de pensée qui peuvent être propices à développer un esprit critique, un recul sur la réalité. Ben, on n'a pas besoin de faire référence à la philosophie, à l'histoire de la philosophie. On peut très bien essayer de trouver finalement des déclencheurs. Moi, dans mon cas, c'est beaucoup les spectacles pour enfants, mais il y en a bien d'autres. Des déclencheurs qui vont finalement être des moteurs qui vont amener les enfants à se dire ben, « Tiens, finalement, quelle est la position qu'on a par rapport à tel sujet? Quelles sont les questions qu'on peut poser? Et qu'est-ce qu'on peut mobiliser finalement comme outil dans notre façon de penser ?» pour essayer d'affiner sans cesse notre capacité à aborder des questions dont on sait qu'ultimement, on ne fera jamais complètement le tour de la question et où finalement le slogan que je mobilise souvent pour essayer de résumer quand, ce que c'est que de faire de la philo pour enfants, bah, c'est de dire « j'ai des questions à toutes vos réponses mmh. ». Et que c'est un peu en changeant de focale sur bah, « c'est plus les réponses qui sont intéressantes, c'est la manière de déboîter ou de déplier des questions comme des poupées russes en se disant tiens on a l'impression d'avoir trouvé la réponse puis hop on voit qu'à l'intérieur il y a encore d'autres questions et sans cesse ça peut devenir ludique, ça peut devenir stimulant et les enfants sont parfaitement capables d'embarquer dans une aventure comme celle-là même si elle est rigoureuse, exigeante, elle est en même temps tout à fait exaltante aussi pour eux et moi j'ai la chance de le faire vraiment à la rencontre des spectacles jeunes publics et de la médiation finalement avec des enfants.
Mm-hmm. Vraiment très intéressant. La pièce va être présentée là, en première les 2, 3 et 4 décembre au Centre des arts de la scène Jean Béré, ici au centre-ville. Quels sont les projets pour cette pièce-là? Est-ce que c'est seulement les dates? Est-ce que vous allez avoir des tournées d'école ou peut-être même transporter la pièce en Belgique ou en Europe?
Alors, c'est plusieurs questions en ouais. une, donc je vais essayer d'y répondre de manière la plus exhaustive. Ben, comme toute compagnie de création, et en particulier des compagnies de création qui existent depuis longtemps, comme le Petit Théâtre, ben, il y a toujours un désir de diffusion, au moins à l'échelle du Québec, hein, dans tout le réseau quand même fort étendu de diffusion en théâtre jeunesse. Donc il y a déjà évidemment cet horizon-là, en se disant ben, susciter l'intérêt, éveiller l'appétit finalement des diffuseurs à l'échelle du Québec. Ben, évidemment, moi étant à cheval sur le Québec et la Belgique depuis 2018, où on a commencé à créer le spectacle, ben, y a beaucoup de gens qui me voient aller régulièrement au Québec pour cette création et qui me disent bon, ben, quand est-ce qu'on va pouvoir le voir ici ? Donc on est en train d'essayer d'imaginer une stratégie de diffusion en Belgique également, avec toutes les contraintes et les enjeux que ça soulève. Mais disons qu'il y a au moins ces deux éléments-là, en sachant que ben, l'objectif est, comme tout artiste qui crée, d'aller à la rencontre d'un maximum d'enfants possible. En sachant qu'il y a quand même une particularité dans le spectacle ici, c'est qu'on a souhaité avoir une jauge quand même plus petite pour susciter cette immersion, cette proximité mmh. entre les interprètes et le public et cette interaction dont je vous parlais il y a quelques minutes. Et que cet enjeu de la proximité nous amène à avoir une jauge de 100 spectateurs environ, ce qui n'est pas la norme en général dans les lieux de diffusion, et qui donc nous amène à devoir être assez attentifs et soigneux pour se dire ben, comment convaincre un diffuseur d'un spectacle qui va être voilà, susceptibles d'accueillir moins de public, ben, ça nous demande d'augmenter encore ou d'accentuer les aspects positifs du spectacle pour vraiment donner envie de prendre un risque finalement en accueillant un spectacle qui sort un petit peu des sentiers battus à la fois dans sa jauge mais également dans sa proposition artistique. Puisque c'est un spectacle qui est quand même un petit peu atypique et les enseignants qu'on a rencontrés cette semaine le voient aussi dans la mesure où ils voient qu'on est un petit peu en train d'attiser des braises qu'en général eux ont tendance à essayer d'éteindre quand les enfants sont dans la salle et donc ils savent parfois pas totalement où se mettre en se disant le spectacle parle de ça, je devrais un petit peu calmer mes élèves, mais je vois que les comédiens essayent de les craquer un peu, donc qu'est-ce que je fais entre les deux?
Ouais. Donc si on veut se procurer des billets pour Prince Panther, comment est-ce qu'on fait?
Alors le plus simple, c'est d'aller sur le site du Petit Théâtre ou de contacter le Petit Théâtre directement, donc il y a vraiment des collègues tout à fait charmantes qui seront là pour vraiment répondre à la demande, en sachant que les séances de cette fin de semaine sont quand même déjà bien remplies. Donc évidemment, si l'intérêt est là, n'hésitez pas à contacter, mais je dirais, on dit toujours, les places sont encore limitées.
Ouais, exactement. J'ai la belle mais co-metteur en scène de Prince Panther, nouvelle création en fait du Petit Théâtre de Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci de votre accueil.
On s'en va en musique et on revient dans quelques instants.